posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, notre French Tech Tour et puis notre World Tour aussi, comme chaque samedi, puis la rédaction de ZeroNet.com avec Éric Le Bourlou dans une petite demi-heure. Mais d'ici là, notre passion selon Sanette est en compagnie de Lila Megrawa et nos invités. On va évoquer les innovations dans le sport, Lila. Ça tombe bien parce que c'est les vacances, on va faire plein de sport, donc c'est cool. Allez.
Et puis surtout, on en sort. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est surtout ça, c'est François. Vrai.
On en sort un peu difficilement, hein, Lila.
Bah, c'est un peu triste.
Un peu compliqué, mais enfin bon.
Allez,
voilà,
les allez.
Oui, bravo aux Portugais, encore une fois.
On est en plein dedans, le sport. Les gens de cette émission ne sont pas forcément réputés pour leur goût pour le football, notamment, mais à culpa, mais on a suivi quand même avec un certain intérêt la compétition. Alors, pourquoi on va parler d'innovation dans le monde du sport? En France, il faut s'y intéresser. Je vais vous donner des chiffres qui viennent du site du Tremplin. On a d'ailleurs le responsable en studio. Alors, en France, la dépense sportive s'élève à plus de 35 milliards d'euros, soit près de 2% du PIB. Et toujours en France, ce sont près de 300 000 emplois qui sont directement liés au sport. C'est dire les possibilités économiques. Alors tout ça, on va en parler avec nos invités, à la fois de start-up investies dans le sport, d'objets connectés, un peu de big data et beaucoup d'expérience client, notamment avec l'expérience et surtout de stade connecté.
Ah, le fameux stade connecté, ça y est.
Stade connecté.
Comment peut se connecter ce stade?
Donc, pour en parler, on a en studio Benjamin Carlier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Benjamin Carlier, vous êtes responsable de l'incubateur Le Tremplin, qui est un incubateur dédié au sport. Et David Banget, bonjour.
Bonjour.
Alors, David Banget, vous êtes CDO, Chief Digital Officer, à savoir directeur innovation du club LOL, l'Olympique Lyonnais.
C'est ça.
C'est ça. Alors, on va commencer avec vous, Benjamin Carlier. Alors, pourquoi avoir lancé un incubateur spécialement dédié au sport? À quel besoin ça répondait?
Ça répondait à plusieurs besoins. Le premier besoin, c'est que, comme vous l'avez rappelé, le sport est un secteur économique à part entière qui fonctionne, qui prend une part de plus importante dans la société, qui a souffert peut-être un peu d'un manque de discrédit. En France, on aime beaucoup la culture, on parle des industries créatives et on a plus de mal avec le sport. C'est un petit peu toujours la variable d'ajustement dans le discours public. Pourtant, le sport, c'est important. C'est une filière qui se structure et au sein de cette filière...
Puis ça génère aussi un business monstrueux quand même.
Ça génère énormément de business et donc il y avait cette volonté de structurer la filière du sport. Alors c'est pas notre rôle à nous de structurer cette filière. Par contre, au sein de la filière du sport et avec tous les acteurs, avoir une initiative propre sur l'innovation et le sport, aider les startups à se développer et aider l'ensemble des acteurs du sport, qu'ils soient privés ou institutionnels, à s'acculturer à l'innovation également.
Alors pour se représenter dans cet incubateur Le Tremplin, vous recevez environ combien de startups tous les ans?
Alors aujourd'hui, on a deux promotions de start-up. La première promotion, elle faisait 17 start-up. La seconde fait 19 start-up. Et les deux fois, on a eu plus de 100 candidatures de start-up du sport qui souhaitaient intégrer notre incubateur. Ça prouve déjà une chose. Ça prouve qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui veulent innover dans le secteur du sport. Et aujourd'hui, il n'existe pas de nomenclature des start-up. Donc c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant de lancer cet incubateur. Donc il y a de très, très nombreuses personnes qui veulent innover et entreprendre dans le sport, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle.
Et alors aujourd'hui, ces start-up, elles vont se concentrer sur quel secteur, elles innovent en quoi?
Alors il y a plusieurs secteurs d'innovation, ils sont assez variés dans le sport, c'est le sport au sens large qu'on englobe au sein de notre incubateur. Il y a bien sûr toute une dimension sport-spectacle dont on va parler ensuite avec l'exemple de l'Olympique Lyonnais bien sûr, donc expérience spectateur, stade connecté, etc. Il y a aussi une dimension qui est très importante sur la performance sportive. Aujourd'hui on sait que le sport, notamment de haut niveau, c'est un business et donc dans le business on essaye de diminuer l'aléa. Et pour diminuer l'aléa sportif, il faut avoir un maximum de données, d'indicateurs pour réussir à faire en sorte que les performances soient toujours les plus hautes possibles. Puis le dernier domaine qui est peut-être le plus important, on va dire, au niveau de la société, c'est le développement de la pratique sportive, parce que le développement de la pratique sportive, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le bien-être, c'est bon pour les comptes de l'assurance maladie, parce qu'on est moins malade quand on fait du sport. Et du coup, il y a plein de start-up qui permettent à la fois aux clubs, aux associations sportives de rentrer dans une ère digitale, mais qui aussi ubérisent, entre guillemets, ce modèle sportif classique des clubs en proposant de nouvelles façons et de nouvelles solutions pour pratiquer du sport au quotidien.
Alors, aujourd'hui, si on dit sport connecté, directement, je pensais aux objets connectés, les bracelets qui vont être capables de
quantifier. Oui.
Exactement. Mmh. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de start-up du sport notables?
Alors, moi, très clairement, sur les objets connectés, je ne sais pas si c'est une tendance de fond ou si c'est un effet de mode. C'est-à-dire que pouvoir simplement avoir sa mesure et savoir qu'on court un 10 km en 35 minutes, 40, 42, 48, 55, 1 heure, le mettre sur Facebook, je ne sais pas si c'est une tendance de fond ou si c'est de l'effet de mode. Par contre, ce dont je suis persuadé, et là où il y a beaucoup de startups qui travaillent, c'est que ces mesures, elles vont permettre de gamifier la pratique sportive. C'est-à-dire de la rendre plus ludique, de créer des challenges entre les personnes et du coup d'avoir une motivation supplémentaire pour faire du sport. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et
on a parce que c'est vrai que l'ennui, c'est l'un des problèmes du sport.
C'est l'ennemi du sport. Et donc aujourd'hui, on a typiquement Running Heroes, qui est devenu Sport Heroes il n'y a pas longtemps, puisqu'il travaille aussi sur le cyclisme et sur le ski, et tout simplement qui récompense les gens qui pratiquent régulièrement du sport en leur faisant des cadeaux. Plus vous faites du sport, plus vous courez, vous êtes récompensé.
D'accord. Donc c'est quoi? C'est sous forme de points en fait?
C'est sous forme de points et les points permettent d'avoir des cadeaux d'accord. qui sont offerts par les marques parce que les marques sont très contentes de pouvoir offrir des cadeaux à des personnes qui courent, à des personnes ciblées, à des personnes qui
on sait vont dépenser de l'argent après dans des accessoires et autres.
Exactement.
D'accord.
Et puis alors, Benjamin Carlier, vous avez parlé de la dimension expérience sportive, enfin l'expérience spectateur plutôt. On va en parler avec David Banger. Comme je disais, vous êtes Chief Digital Officer à l'OL. Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de stats connectés, d'expériences connectées?
Et déjà, l'expérience connectée passe d'abord par une infrastructure. Donc, l'infrastructure mise en place et réfléchie dès le début du projet a consisté à mettre en place des bornes Wi-Fi, 650 bornes Wi-Fi, et une couverture cellulaire totale qui faisait partie du cahier des charges de l'UEFA dans le cadre de l'Euro. En fait, avec cette infrastructure, on a pu imaginer un dispositif d'expérience digitale. Donc, les deux objectifs majeurs, c'était enrichir l'expérience du spectateur et la simplifier. Au-delà d'un enjeu business, évidemment, pour l'Olympique Lyonnais en termes de e-commerce, mais avant tout d'enrichir et de simplifier la vie du spectateur. Donc, ça passe par différents canaux, le canal mobile, par lequel on peut directement arriver au stade et pouvoir dématérialiser son billet en passant par les tripodes. Ça passe aussi par l'expérience mobile enrichie au sein du stade ou en mobilité dans le stade, en pouvant commander depuis sa place un sandwich, une boisson, un menu.
Ça, c'est génial.
Et de
ça.
Pouvoir le retirer en caisse prioritaire avec de la livraison à la place que nous allons lancer à la rentrée de la saison prochaine.
C'est-à-dire qu'avec votre appui, on fait encore moins de sport quoi, quand on est dans un stade.
On fait encore moins de sport. On profite du sport.
Voilà, c'est ça.
On profite de l'expérience live.
Et on vous apporte votre dog directement à votre place. C'est génial quand même.
Non, mais c'est ce que j'ai coutume de dire. En fait, l'idée, c'est de pas avoir à choisir entre aller aux toilettes ou aller manger à la mi-temps.
On profite pleinement.
On profite pleinement de l'expérience live.
Et puis, on évite de faire la queue pendant parfois
on évite de faire la queue
aussi.
Tout à fait.
C'est bien. La nouveauté aussi, c'est que donc on est dans un autre univers où finalement on s'est rendu compte qu'avant il était impossible de communiquer dans un stade quand on avait un portable. On n'arrivait même pas à envoyer des SMS et c'est toujours le cas dans certains stades. Là, c'est du passé, c'est-à-dire que qu'il y en ait 10, 20, 30, 40, 50, 60 000 spectateurs, on peut avoir une connexion et échanger ce qu'on est en train de vivre, ce qui est quand même aujourd'hui un peu le béaba quoi. On regarde un concert ou on voit un match, on a envie de partager.
Bah c'est une réalité pour l'OL depuis le 9 janvier, depuis l'inauguration du parc olympique lyonnais. La couverture cellulaire faisait partie du cahier des charges de l'UEFA, donc les 10 stades dans le cadre de l'Euro UEFA ont une couverture cellulaire totale. En revanche, la couverture Wi-Fi est une initiative privée des clubs et en l'occurrence le parc OL a fait le choix d'équiper en borne Wi-Fi. Donc ça c'est un fait, c'est disponible depuis le 9 janvier. Ensuite, pour le...
Donc, ou j'ai de la 4G, de la 3G ou du Wi-Fi.
Exactement.
Je choisis, en fait.
Exactement. D'accord. Et sur la, la partie Wi-Fi, on a une possibilité d'accueil de 20 000 connexions simultanées, avec, en partenariat avec Orange, qui est notre partenaire technologique. Et ce qui nous permet, demain d'absorber, l'ensemble des gens qui se connectent au Wi-Fi. Pour le moment, on n'a pas eu de problématique particulière. Et après, c'est qu'une question de licence avec Orange également. Donc, on n'a pas de frein, en fait. Côté infrastructure, on a la possibilité d'aménager des bandes complémentaires. Et côté connexion simultanée, c'est juste une histoire de licence. Et sur l'expérience, pour revenir à l'expérience, on a effectivement simplifié la vie du spectateur, mais on a enrichi l'expérience également. On a la possibilité de revoir en replay des clips, une minute trente après une action, en choisissant son angle de caméra et en consultant finalement la vidéo.
On a la possibilité. Mais ça sert à quelque chose vraiment ou c'est du gadget? Parce que finalement, quand on est dans un stade, est-ce que... Oui, mais est-ce qu'on a le temps de regarder une action qu'on vient de voir? Est-ce que justement, en regardant cette action-là, les yeux rivés sur son smartphone, on va plus regarder ce qui se passe? Enfin, vous voyez,
c'est une bonne question. En fait, au départ, on avait lancé des chaînes live, donc la vidéo en temps réel, la diffusion de highlights en boucle, de bonus, etc. Effectivement, ça n'avait pas forcément très pris. Après, on a lancé la VOD, donc les clips. Le défi est vraiment d'être hyper réactif. Donc, on a monté l'équipe nécessaire. On a deux personnes qui font le montage en temps réel, qui reçoivent les flux, et une minute trente après une action, on peut louper un but, on peut louper une action, on peut louper aussi une faute.
Et puis on la verra avec une caméra qui sera peut-être mieux placée.
On peut choisir son angle de caméra, donc derrière le but.
Prenez l'exemple du rugby, alors dans le foot c'est pas forcément notoire, mais dans le rugby déjà, quand il y a une mêlée, quand il y a un ruck, l'ensemble des spectateurs sont rivés sur l'écran géant, parce qu'on ne peut pas voir du haut de la tribune ce qui se passe
dessous,
exactement dessous, alors qu'on peut le voir sur l'écran.
C'est une grande nouveauté pour le foot, effectivement. L'Euro l'a pas forcément mis en place, nous on l'a mis en place. C'est une forme de tolérance en fait au niveau de la diffusion vidéo. Et puis les spectateurs raffolent des réseaux sociaux. Donc nous on a fait le choix de créer un social wall, donc un mur social qui agrège l'ensemble des contenus des fans de façon modérée, le contenu de support officiel.
D'accord.
Et sur un mur unique peuvent consulter et interagir avec ces réseaux sociaux.
Et tout ça est compris dans le prix du billet, c'est-à-dire que ce ne sont pas des options.
Non, l'application est gratuite.
D'accord.
C'est l'application du Parc OL.
Mais donc, tout ce qui est Wi-Fi, etc.
Non, le Wi-Fi est gratuit également.
D'accord.
Tout est gratuit. La seule chose, en fait, c'est le canal vidéo, en fait, est disponible uniquement sur le canal Wi-Fi.
D'accord.
Voilà, pour une question d'optimisation et de droit.
Et de droit. Oui, parce que chez moi, donc, je suis plus dans le stage, je peux plus voir le match.
Depuis chez vous pourrez consulter les statistiques, etc. Mais pas forcément la vidéo, évidemment.
Voilà le stade de l'OL qui est le stade de demain. Hein. Il y a d'autres stades français qui sont sur cette voie aussi.
Et l'innovation dans le domaine du sport, on peut le suivre à l'incubateur, le tremplin à Paris. Merci beaucoup, messieurs, Benjamin Carlier du tremplin et David Banget de l'OL.
Merci.
Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, la suite de cet atelier dans un instant. French Tech Tour et World Tour à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
La rédaction de 01net.com dans quelques minutes avec Eric Le Bourlou qui me rejoindra. Mais auparavant, sur BFM Business, c'est notre French Tech Tour de cette semaine avec vous, Aurore Géraud. On s'intéresse à la place pour les réseaux dans les services publics, Aurore.
Alors, pour le French Tech Tour de cette semaine, je suis en compagnie de Christophe Assens, qui est maître de conférences HDR en sciences et gestion et directeur adjoint du laboratoire de recherche en management de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Christophe, vous êtes également à l'origine d'un ouvrage qui s'appelle « Les réseaux de services publics, menaces ou opportunités pour l'action publique » édité aux presses de l'EHESP. Et nous allons parler donc de ces fameux réseaux. Quand on parle de réseau, actuellement, qu'est-ce qu'on peut définir par réseau ?
Oui, le réseau, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui est à la mode, notamment avec les réseaux sociaux sur Internet. À mon avis, le réseau, on doit le concevoir comme une structure de collaboration où la confiance est importante. Donc, chaque fois qu'on a besoin de collaborer, en dehors du cadre institutionnel classique, et où on a besoin également de nouer une relation de confiance pour collaborer, à ce moment-là, on peut être dans un contexte de réseau.
Alors, on parle de réseau dans tout ce qui est service public. Comment on retrouve le principe de réseau à l'intérieur de structures institutionnelles et vers l'extérieur?
Alors, il y a plusieurs logiques, plutôt en interne. Le problème des administrations publiques, c'est qu'elles sont souvent hiérarchisées, bureaucratisées. Et donc, parfois, il peut être utile de contourner les lenteurs bureaucratiques en fonctionnant en réseau d'un service à l'autre, d'un département à l'autre, d'une administration à l'autre, d'un corps de fonctionnaires à l'autre. Et donc, je crois que c'est très utile, c'est même précieux, et pour débloquer rapidement des projets, de fonctionner en réseau.
Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est une manière de faire sortir l'innovation, selon vous?
Oui, la seule manière d'innover, c'est un enjeu national, même mondial. Aujourd'hui, on sait très bien que sans innovation, on ne pourra pas développer de nouvelles richesses. Dans l'administration, effectivement, comme dans l'entreprise, on ne peut innover qu'en fonctionnant en réseau, c'est-à-dire en s'ouvrant aux autres, à la différence institutionnelle, en nouant des relations de confiance et en cultivant de cette manière de la nouveauté. Si on reste enfermé dans son institution, dans son administration, dans ses certitudes, dans ses procédures, on sera incapable d'innover au service du citoyen ou pour l'entreprise au service du client.
Vous parlez dans votre livre de menaces ou d'opportunités. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme menace au principe de réseau dans les institutions ?
Le réseau, ça peut être aussi une sorte de rempart contre les changements institutionnels, notamment. On a dans l'administration publique aussi beaucoup de corporatisme, des fonctionnaires qui s'enferment dans des logiques de corps pour cultiver une rente de situation. Et donc le réseau peut être utilisé de cette manière pour faire de l'influence ou du lobbying, pour défendre des intérêts corporatistes. Donc ça, c'est plutôt une menace parce que ça empêche l'action publique de s'exercer efficacement dans l'intérêt général. Par contre, lorsqu'il y a des réseaux qui sont plus hybrides, plus divers, qui vont mélanger différents types de fonctionnaires ou des fonctionnaires et des acteurs de la société civile ou du privé, à ce moment-là, on va trouver des solutions innovantes très utiles pour moderniser le service public et pour améliorer la réalisation de services pour le citoyen.
Qu'en est-il de la place, selon vous, du citoyen lui-même? Est-ce qu'il peut être à l'origine de changements dans les institutions pour améliorer le bien-être en ville?
Je crois que c'est de plus en plus indispensable de tenir compte des attentes du citoyen, effectivement. Donc il faut le faire rentrer quelque part dans la chaîne de valeur de l'administration. Et donc, bien évidemment, le fonctionnement en réseau a du sens. C'est-à-dire qu'il faut écouter, solliciter, travailler en concertation avec les citoyens. Maintenant, on ne peut pas non plus être dans une logique du diktat du citoyen sur l'intérêt général en dehors des arbitrages politiques effectués au moment des élections. Donc il faut trouver un juste milieu. Je crois que la pression des réseaux sociaux sur Internet pour la communication politique est trop forte. En même temps, je pense que les administrations publiques ont tout intérêt à se rapprocher du citoyen pour savoir ce qui est pertinent ou pas, plutôt que de s'enfermer dans des bureaux très loin des réalités du quotidien.
Est-ce que vous avez des exemples concrets d'initiatives qui seraient vertueuses, soit internes aux institutions, soit ouvertes aux citoyens, tout ce qui est démocratie participative, par exemple?
Alors, la démocratie participative, oui, il y a j'ai un exemple en tête. Moi, je me souviens du maire de Parthenay, il y a quelques années en arrière, qui avait voulu associer tous les citoyens à la prise de décision politique, quelque part, avec un lien direct entre le maire et les citoyens, sans passer par les intermédiaires traditionnels. Donc, cette mise en réseau, ce qu'on appelle la démocratie participative, ça avait permis notamment de créer de nombreuses associations dans une ville qui était laissée un peu à l'écart des grands ensembles régionaux. Par contre, le revers de la médaille, c'est que en court-circuitant les intermédiaires traditionnels, le maire n'a pas été réélu ensuite parce qu'il a perdu une partie de son assise politique. Donc ce que l'on a gagné sur le plan social, on l'a perdu un petit peu du point de vue politique. Donc ce qui est positif sous un angle ne l'est pas forcément sous un autre. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut arriver dans les modèles de société de demain à faire cohabiter l'horizontalité et la verticalité le pouvoir politique avec le pouvoir économique et la réalité sociale.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Place à notre World Tour avec votre invité, Lila Megrawa.
Oui, François. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nathalie Wright. Bonjour. Alors, Nathalie Wright, vous êtes directrice de la division Grande Entreprise et Alliance de Microsoft France. Alors, on vous a au micro, vous avez lancé en fait une session de conférence pour inspirer les grandes entreprises. Alors, aujourd'hui, on va parler des nouveaux ressorts de l'innovation, c'était le thème de la première soirée. Alors, expérience client, co-création, starification du produit, quels sont les nouveaux ressorts de l'innovation? De quoi on parle exactement, Nathalie Wright?
Bonjour, oui, donc le sujet, il est effectivement vaste. Et moi, j'ai l'occasion de l'observer donc dans les 100 plus grandes entreprises françaises depuis 5 ans, cette transformation digitale dont les vagues successives impactent, je dirais, ces organisations selon deux axes principaux. D'un côté, vous l'avez dit, l'expérience client, la refonte des business models, de nouveaux produits pour maintenir un niveau de compétitivité apprécié des clients. Donc ça, c'est toute cette transformation, je dirais, business. Et puis de l'autre côté, c'est la raison pour laquelle il nous paraît important d'associer un nombre de réflexions, enfin en tout cas des réflexions selon des axes extrêmement divers, parce que c'est une vraie transformation de la culture d'entreprise, de la façon dont l'humain s'approprie ces transformations, puisqu'à la vitesse à laquelle les changements s'opèrent, c'est pas juste réinventer un produit, c'est pas juste réinventer un business, c'est vraiment transformer l'ensemble de ces organisations en profondeur.
Alors, l'une des expressions qui est énormément revenue pendant cette session-là, c'est la collaboration, la flexibilité qui amène l'entreprise à se renouveler. Est-ce que c'est ça la recette magique?
Alors, je ne sais pas si c'est la recette magique, mais c'est en tout cas absolument nécessaire. Dans un monde global, extrêmement mobile, et par mobilité on entend le fait que la source de l'information se trouve partout, que les personnes qui peuvent contribuer à la réalisation d'un objectif, d'un projet sont extrêmement dispersées, que les contributions vont s'opérer avec des angles d'impact très, très variés. On ne peut plus faire partir du postulat qu'on va pas, on ne peut plus être le héros qui va réussir tout seul à appréhender cette complexité. Donc la collaboration est extrêmement importante dans ce contexte, et même nécessaire et une obligation. Enfin, je pense que le sujet n'est plus de savoir s'il faut collaborer ou pas, c'est comment.
Alors, quand on parle de collaboration, on peut également lier cette notion à la co-création. Comment on implique son client dans la création d'un produit?
Alors, aujourd'hui, le client, quel que soit le métier dans lequel on est, nous, les individus qui consommons, on attend de trouver des produits, des services qui correspondent à notre besoin propre. On est prêt à les consommer selon de nouveaux modèles. On consomme des services. On est prêt beaucoup plus à partager ou à utiliser finalement des capacités. Airbnb était effectivement présent, c'est un bon exemple. Des capacités qui n'étaient pas exploitées selon donc des modèles de consommation très différents. Donc le client attend cela. Et ça bouleverse énormément les modèles à la fois de conception de ces services, de mise en œuvre, et la technologie permet en fait beaucoup plus que ça n'a jamais été le cas dans le passé de répondre à cette attente du client, quel que soit le produit et le service dont on parle.
Et alors, comment chez Microsoft vous invitez vos clients à co-créer? Comment vous les accompagnez?
Alors, en fait, le mouvement très important qu'on est en train d'opérer, en particulier sur les grandes dans le business des grandes entreprises aujourd'hui, c'est pas forcément de co-créer, mais c'est faire participer le client. Enfin, dans l'élaboration de Windows 10, un des derniers grands lancements qui a été fait il y a bientôt un an, on a associé des centaines de milliers d'utilisateurs dans les phases de bêta-test de la solution pour consolider l'ensemble de leur feedback pour réussir à sortir le produit qui leur convenait. Là, on a notre événement annuel qui s'appelle donc maintenant Microsoft Experience. On a associé la communauté des internautes pour nous accompagner dans, dans ne serait-ce que le, l'identité, le nom, on a changé le nom, et puis dans ce, que, ce qu'ils aimeraient trouver dans cet événement pour mieux correspondre à leurs besoins. Donc il y a pour Microsoft également de nombreuses possibilités. Et puis une autre façon de considérer cela également, c'est de réfléchir beaucoup plus aujourd'hui quand on engage avec un client à quel sera l'usage qu'il fera de nos technologies plutôt que simplement lui vendre les licences Microsoft. Et ça, c'est dans la participation à l'élaboration de la valeur associée à ce que nous vendons que se fait la différence.
Merci beaucoup, Nathalie Wright. Je rappelle, vous êtes directrice de la division Grande Entreprise et Alliance de Microsoft France. Merci.
L'atelier numérique sur BFM Business.
La suite de cet atelier dans un instant avec l'actualité vue par l'équipe de 01net.com. Et puis juste après, ce sera le crash test d'Antoine Cyr. A tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine dans un instant. Mais auparavant, comme chaque samedi, il est à mes côtés, Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef de 01net.com, m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors Éric, on va commencer par cette actualité dramatique. Évidemment, on rebondit sur l'attentat qui s'est déroulé avant-hier donc à Nice,
oui. Hein,
lors du 14 juillet, juste après le feu d'artifice. Alors on va en parler du côté de la high-tech parce qu'il y a une appli qui est sortie il y a quelques temps, oui. Ça, qui s'appelle SAIP, qui est une appli qui est censé en fait informer la population sur les attentats, sauf que jeudi soir dernier, cette appli, elle a pas marché.
Ouais, il y a eu un gros bug, on va dire, puisque cette application qui est censée justement une application officielle. Hein,
oui, voilà, c'est pas quelqu'un qui a développé ça dans son coin.
Non, c'est une appli.
C'est une vraie appli.
C'est une vraie application. Cette application donc a été beaucoup vantée par le gouvernement lors de son lancement pour voilà pour dire. Si jamais il se passe une chose horrible comme ce qui s'est passé à Nice, vous serez prévenu le plus tôt possible et vous pourrez prendre des mesures, vous aurez des informations. Sauf que l'attentat à Nice a eu lieu vers 23h à peu près, un peu avant. Et là, l'application n'a déclenché une alerte qu'à 1h30 du matin. Donc là, il y a eu un gros problème de communication hein, sur cette application. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Les gens qui sont responsables de cette appli ont été convoqués au ministère de l'Intérieur. Ouais. Toujours est-il que voilà, il y a eu un vrai problème. Alors que c'est voilà quelque chose qui aurait dû marcher oui,
alors
immédiatement.
Alors que cette appli devrait être, on va dire, très très réactive.
Exactement.
Elle a été lancée pour ça, puisque
exactement.
C'est l'appli officielle.
Tout
fait.
À fait. Alors bon, par contre, on peut rappeler aussi quand cet attentat que l'option safety check hein, de Facebook hein,
a été
déclenchée aussi et qu'elle a effectivement permis quand même aussi à pas mal de gens d'être rassurés quant à leurs éventuels proches qui pouvaient être sur la promenade des Anglais.
Voilà, et Twitter aussi qui a rempli son rôle encore une fois de manière assez impressionnante. Voilà, on referme cette parenthèse sur cette actu dramatique. Pour revenir, on va dire, aux faits d'actualité high-tech.
Plus léger.
Ouais. Et Pokémon Go, hein, c'est quand même le vrai phénomène de cette semaine. Pokémon Go qui donc excite tout le monde. C'est, on le disait, voilà, tout le monde joue à ça et sur Android, sur iPhone. Vous y avez joué, Eric. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi tout le monde parle de ce jeu et pourquoi il y a un tel engouement pour ce jeu?
Alors, je pense qu'il y a un engouement énorme pour ce jeu d'abord parce que c'est Pokémon et que Pokémon, bon, même si les gens un peu plus âgés connaissent moins, mais c'est quand même une licence massive hein, de Nintendo. Hein. C'est incroyable. Tous les jeunes qui ont une 3DS ou des consoles de poche chez Nintendo connaissent par cœur Pokémon. Et aujourd'hui, voilà, autant qu'on fête maintenant les 20 ans de Pokémon, c'est une nouvelle version de ce jeu vraiment important. Mais surtout, c'est pas le premier, on va pas dire que c'est le premier, mais c'est le premier jeu, on va dire, grand public. Qui se joue à l'extérieur, tout simplement, que vous prenez votre téléphone portable, vous sortez et puis vous allez attraper des Pokémon. Et ce qui est génial dans ce jeu, c'est que c'est à la fois très simple, c'est-à-dire que il suffit de vous balader comme ça dans les rues et puis vous tombez
et puis
sur
on
des
va
petits
tomber
monstres.
Sur un Pokémon qui va être incrusté dans le vrai décor, c'est
exactement,
ça qui est étonnant.
Exactement. Hein c'est donc effectivement c'est une utilisation très grand public et c'est vrai qu'on en a pas eu beaucoup jusqu'à présent de la réalité augmentée hein, dont on parle beaucoup mais qu'on n'avait pas encore vu dans des applications avec beaucoup de succès. Et effectivement, vous voyez un monstre qui apparaît sur dans votre rue près de chez vous et ça pour les grands, les petits et les grands, c'est absolument magique. Et c'est, on voit bien ça, une nouvelle techno qui arrive. Mais au-delà de tout ça, en fait, il y a aussi un côté très addictif au jeu, au principe même du jeu Pokémon, puisque s'il s'agit de collectionner un maximum de Pokémon, il y en a des plus ou moins rares. Il y a dans des endroits dans la ville où vous allez en trouver certains, mais vous en trouverez pas d'autres. Donc il faut que vous bougiez. Et puis
c'est ça qui est étonnant,
là,
c'est-à-dire qu'au moins ce jeu-là va pas nous inciter à rester sur le canapé et manger, voilà, des chips. Et là, on va bouger, quoi.
Exactement. C'est, au contraire, ce qu'on disait avant, c'est qu'avant, les gens, quand il pleuvait, ils restaient jouer à la console. Maintenant, quand il pleut, ils vont peut-être, ils pourront plus jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que cette semaine dans Paris, là, il y avait déjà énormément de joueurs, alors que le jeu n'était même pas sorti. Il y avait déjà des gens qui se réunissaient, alors, dans des endroits où on peut mettre des leurres. En fait, c'est des endroits où un joueur peut attirer des Pokémon, et il y avait, voilà, dans mon quartier, des 10-15 joueurs qui étaient là en train de jouer à Pokémon, alors que le jeu n'était pas encore disponible en France à ce moment-là.
Et tout le monde se bat pour avoir son petit Pokémon.
Exactement. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est à la fois un concept assez nouveau. Alors, il y avait déjà Ingress et ce genre de jeu, mais qui était un petit peu plus pointu, un petit peu plus technique, un peu plus compliqué à comprendre.
Qui était développé par Google, non?
Par Niantic, la même entreprise qui a développé Pokémon Go. D'ailleurs, c'était leur premier jeu. Mais là, c'est très grand public. C'est un usage complètement nouveau du jeu vidéo. Et c'est vrai que ça fait un carton mondial, puisqu'on estime aujourd'hui qu'il y aurait plus de 65 millions d'utilisateurs. Alors, 65 millions d'utilisateurs en une semaine, en gros, quoi. Que en moyenne d'utilisation quotidienne, ça aurait dépassé non seulement Tinder, le site de rencontre, mais aussi Twitter, que finalement il y aurait plus d'engagement de temps passé sur Pokémon que sur Facebook, par exemple. Donc c'est vraiment un phénomène massif qui va sans doute durer tout l'été, et même au-delà, puisque évidemment il y aura des mises à jour, etc.
Voilà, Nintendo qui fait mouche, avec ce premier jeu mobile, puisque c'est aussi quand même une petite révolution. Oui. L'arrivée de Nintendo sur les téléphones portables, puisqu'avant, rappelons que toutes les licences de Nintendo étaient protégées et savamment conservées sur les consoles de la marque.
Exactement, même si là, pour l'instant, c'est un jeu de Pokémon Company, donc Pokémon Company, c'est Nintendo, mais pas que, et on suppose que, effectivement, bon, il y a d'autres actionnaires de cette entreprise qui ont dû se dire, ouais, Pokémon, ce serait quand même pas mal qu'on soit sur mobile. Mais Nintendo, effectivement, nous réserve de bien d'autres surprises sur mobile dans les mois qui viennent. On en a déjà parlé ici. Ils vont s'y mettre.
Voilà. Nintendo dont l'action a explosé ces derniers jours grâce à ce jeu. C'est quand même assez impressionnant.
Qui est aussi un des plus rentables de l'App Store, parce qu'on le rappelle, c'est un modèle freemium. Donc, on peut aussi acheter des choses, c'est pas complètement gratuit. On peut aussi acheter, il y a une petite boutique dans laquelle on peut acheter des bonus, etc., etc. Et ça fait beaucoup d'argent qui ramène non seulement à Nintendo, mais aussi à Apple.
Alors bon, Pokémon Go, il y a aussi des effets, on va dire, pervers, c'est-à-dire que parfois il se passe des choses incroyables liées à Pokémon Go.
Oui, il y a des choses qui sont très très limites. On a vu par exemple un gamin tout simplement se faire poignardé parce qu'il était en train de jouer à Pokémon Go, mais il a dit au médecin non mais je veux continuer à jouer, donc je vais pas aller à l'hôpital. Enfin, ce genre de comportement un peu bizarre. Il y a des gens qui se sont fait voler leur smartphone parce que justement il y avait des petits malins qui savent très bien que les gens, quand ils jouent, sont un peu accrochés à leur écran et ne voient pas trop ce qui se passe autour d'eux,
donc ils en profitent pour piquer le smartphone à ce moment-là.
Voilà,
il y a des gens qui sont tombés aussi,
qui sont tombés, ouais, effectivement,
enfin, parce tombés que, de manière accidentelle, mais assez assez gravement,
ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de faits divers autour du jeu, et c'est vrai qu'il faut faire très attention quand on joue, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu, on est à fond sur son écran, et même si on se balade, on voit pas forcément toujours tout ce qui se passe autour de nous. Donc il faut faire, et c'est d'ailleurs indiqué au lancement du jeu, il faut faire vraiment très attention à ce qui se passe autour, parce que mine de rien, on reste dans la rue, dans le monde réel, et si on fait pas gaffe, on peut quand même on peut quand même se faire avoir, quoi.
Cela dit, ça a aussi un côté positif, c'est que ça va faire venir des gens à des endroits où avant il y avait personne.
Oui, exactement, parce que ça a un côté comme ça, puisque effectivement on découvre aussi, c'est un petit côté touristique même, puisqu'on découvre un petit peu des endroits de la ville qu'on connaissait pas forcément en allant dans les différents Pokéstop qui existent, et c'est assez intéressant de redécouvrir comme ça l'endroit où on vit.
Imaginez un bar qui a la chance d'être à côté d'un Pokéstop.
Et là c'est jackpot. Certains bars, puisque ça attire vraiment des clients qui vont peut-être préférer ce bar à celui d'à côté.
C'est une histoire de fou. On va rester du côté de chez Nintendo avec cette annonce. Alors voilà, Les plus vieux d'entre nous connaissent sans doute la Nintendo NES, hein, qui était voilà la toute première console de Nintendo avec des jeux mythiques. Eh bien, la Nintendo NES, puisqu'on est en pleine période vintage, va revenir.
Ouais, elle revient. Alors, c'était un peu l'annonce surprise là. On s'est dit, bon, on vous rassure, ce n'est pas la nouvelle console de Nintendo, la NX que tout le monde attend. C'est un petit bonus, voilà, que Nintendo va sortir dans les mois qui viennent. C'est une nouvelle NES. Enfin, c'est la NES qu'on connaît. Elle a exactement la même tête que celle que vous aviez peut-être il y a 25 ans, voilà, sous votre télévision. C'est la même. Elle est beaucoup plus petite. En revanche, hein, ça a été miniaturisé et il n'y a plus de cartouches à insérer à l'intérieur. Tous les jeux, il y en a 30 en fait, et parmi les plus grands, hein, je sais pas, Zelda, Super Mario, tous ces jeux-là sont à l'intérieur, Castlevania, tous ces jeux-là sont dans cette petite console que Nintendo va vendre pour une soixantaine de dollars. On n'a pas encore le prix en euros, mais ce sera pas très cher pour faire plaisir à tous les fans de rétro gaming. Hein. Mmh. Et donc, il y aura même la manette, vous savez, la manette rectangulaire
avec le bon vieux fil.
Vieux fil qui sera livré avec pour rejouer au grand classique de la NES sur votre magnifique télé à écran plat.
Ça risque d'être l'un des hits de Noël, hein, cette histoire-là.
Oui, alors oui,
pour tous les fans de vintage.
Exactement, ça va pas être très cher, mais voilà.
Et voilà, une platine vinyle et Nintendo NES, c'est bon. Retour vers le futur, on y est, les amis.
Exactement.
On enchaîne avec là cette fois-ci un service qui nous fait penser à la télévision de demain, la télévision du futur, qui a été lancée en grande pompe, sponsorisé par Apple en quelque
exactement,
sorte.
Exactement. Ouais.
Il s'agit de Molotov TV,
un service français de télévision par internet qui a été lancé effectivement cette semaine et qui est intéressant en plus d'un titre parce que effectivement c'est une application qu'on installe, donc on peut l'installer effectivement sur une Apple TV, et Apple était très fier de montrer que son Apple TV faisait enfin la télé, hein, grâce à Molotov, et qui vous permet donc de voir effectivement toutes les chaînes de la TNT, voire d'autres en plus, de façon non linéaire en fait. Vous pouvez regarder le direct de la télé, de toutes les télés de France, mais vous pouvez aussi regarder des programmes en replay, même si c'est pas pour l'instant sur toutes les chaînes, il y a quelques chaînes qui sont encore réticentes à proposer leur programme en replay, mais le tout avec une interface qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît par exemple chez Netflix, etc., et qui met en avant les contenus bien plus que ce qu'on peut voir évidemment dans un guide des programmes électroniques, etc.
Mais finalement la chaîne passe au second plan, c'est le contenu qui est diffusé sur la chaîne qui nous apparaît en fait.
Exactement. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut trier ses programmes télé par type. On peut par exemple choisir, regarder qu'est-ce qu'il y avait comme documentaire récemment à la télé. Mmh. On peut aussi les trier par star. On peut, si on est fan par exemple de Ryan Gosling, on peut dire je voudrais voir tout ce qui passe à la télé avec Ryan Gosling. Donc tout ça, c'est des choses qui améliorent l'expérience classique de la télévision. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Molotov TV, c'est gratuit. Alors c'est un modèle freemium, on en parlait pour Pokémon, mais c'est un peu pareil. Vous avez une version gratuite, mais vous pouvez payer pour avoir davantage de stockage que vous pouvez aussi enregistrer.
Et davantage de chaînes aussi
de
premium.
Chaînes,
hein.
Exactement. Davantage voilà. De chaînes et davantage de stockage puisque vous pouvez enregistrer vos programmes en ligne et les regarder ensuite.
Voilà, Molotov TV qui est donc dispo sur Apple TV, sur iPad. Ça va bientôt arriver sur iPhone, sur Android et sur les télé connectés Samsung et LG à la rentrée.
Et, ouais, voilà. Et ça marche aussi sur ordinateur, donc sur PC ou sur Mac. Vous pouvez aussi télécharger, regarder la télé simplement sur votre ordinateur.
Voilà, si vous en avez marre de voir la télé, mais que malgré tout, il y a quelques émissions qui vous intéressent, et bien sûr sur les chaînes traditionnelles, Molotov est attesté.
Exactement.
Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de Zeronet.com. Vous restez avec nous, suite et fin de cet atelier, c'est dans une minute. Donc, vous restez avec nous. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, et dans un instant, le dernier crash test de la saison avec Antoine Cyr, ici présent, mais auparavant, eh bien, c'est le décryptage de ce samedi avec vous, Guillaume de Groisse. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, François. Bonjour à tous. Alors, pour ce dernier décryptage de la saison, mon cher François, j'avais envie de ne pas parler de technologie ou de digital, mais plutôt d'un exemple d'usage des réseaux sociaux que j'ai trouvé intéressant. Tout le monde connaît Carlos Ghosn, le charismatique patron de Renault et Nissan. Eh bien, c'est aussi un grand influenceur du web. Il fait partie de ces patrons qui écrivent sur LinkedIn. Et c'est d'ailleurs le plus suivi de tous les patrons français sur la toile. Autant dire que chacun de ses écrits mérite qu'on s'y arrête. Alors, qu'est-ce que nous raconte Carlos Ghosn dans son dernier article ? Que son métier, ce n'est pas que de diriger l'un des plus puissants groupes automobiles dans le monde, présent sur tous les continents, en compétition avec Toyota, Volkswagen ou Tata, pour la suprématie planétaire à quatre roues. Non, pour lui, son métier, c'est aussi d'aller attirer les meilleurs talents partout pour être sûr que Renault et Nissan continuera à exceller dans les années et décennies qui viennent. Et attirer les meilleurs talents, cela signifie être à la lutte avec les GAFA, Google, Apple, Facebook ou Amazon, qui font exactement la même chose. Ce que nous raconte Carlos Ghosn, c'est donc l'histoire d'un vaste marché mondial de l'intelligence, de l'énergie, du génie, qui transcende les secteurs, les nations, les langues, les générations, les genres. Que le travail d'un CEO, c'est de mettre en place une organisation pour détecter et attirer ses talents partout sur la planète, que ce soit en allant les chercher au sein d'un groupe brésilien, d'une université chinoise ou d'une PME indienne. Et que dans cette course aux talents, il est à la lutte avec les géants de la Silicon Valley, mais aussi avec Alibaba ou Samsung. Cette idée avait déjà été évoquée il y a près de 15 ans au Forum économique de Davos, qui affirmait que l'intelligence, cérébrale ou manuelle, deviendrait la nouvelle matière première recherchée dans le monde du futur. L'idée est d'autant plus intéressante que l'on pensait jusque-là que le seul marché mondial existant des talents concernait les athlètes de haut niveau et les CEO de grands groupes comme Carlos Ghosn. C'est d'ailleurs cet argument qui est souvent utilisé pour justifier les salaires, on va dire, mirifiques qu'ils se font verser. Et le patron de Renault-Nissan est l'un des plus gourmands en la matière, mais ce n'est pas notre sujet. Et le voilà qui nous prend à contre-pied finalement en disant que le véritable marché mondial, c'est celui des collaborateurs de talent. Voilà qui nous fait voir son rôle totalement différemment, comme celui d'un ambassadeur au service de l'attractivité de son entreprise, chargé de veiller à ce qu'elle donne envie de venir y travailler et à y déployer ses talents, à ce qu'elle soit à la pointe dans tous les domaines, innovation, process, industrie, marketing, ressources humaines, finances, afin que dans chaque activité, elle attire et conserve les meilleurs. Cela veut dire aussi réussir à bâtir un environnement professionnel motivant, à la fois plein de défis et agréable à vivre. Eh bien, ce n'est pas si facile. Car les géants de l'Internet l'ont bien compris quand on voit comment ils chouchoutent leurs salariés à coups de cantinos de gamme partout, de salles de sport dernier cri, de halls remplis de baby-foot et de tables de ping-pong dans la Silicon Valley. Et même si Carlos Ghosn ne tombe pas dans son article dans la surenchère face au campus des GAFA, il fait rêver les collaborateurs potentiels en parlant de parcours international, d'une start-up au sein même de l'alliance Renault-Nissan, et il détaille les compétences attendues. Cloud computing, machine learning ou encore big data. Et il termine même son court article par l'importance de l'open innovation avec les partenaires et les fournisseurs de Renault-Nissan pour bâtir un monde meilleur. Bref, tous les ingrédients y sont pour faire ressembler le discours du patron d'un groupe industriel, peut-être moins attractif pour les millennials, à celui d'un Sergey Brin ou d'un Elon Musk. Alors pour conclure, on peut dire que le patron de Renault-Nissan nous surprend, comme toujours, en nous montrant que l'on peut diriger un groupe qui a plus d'un siècle et comprendre le monde et la façon dont il évolue. Bien sûr, les mauvaises langues diront que Carlos Ghosn est un suiveur et que ce n'est qu'une façon habile de faire du recrutement envers les millennials. Sans doute, mais même en étant que le premier des suiveurs, il est déjà dans le peloton de tête. Et en paraphrasant un slogan, on pourrait dire que sur LinkedIn, il a tout compris.
Merci Guillaume de Grasse. Et pour terminer donc cet atelier numérique, le crash test d'Antoine. Antoine. Alors c'est vrai que d'habitude, pour les derniers crash tests de la saison, c'est toujours un peu estival, vacances, etc. Mais pas cette fois.
Non, bah alors d'abord je me relie quand même un peu à l'actualité. Vous savez donc voilà, il y a quelques mois le Premier ministre britannique qui considérait que ça manquait un peu d'ordre et de discipline dans ses rangs avait eu une idée formidable. Il s'est dit je vais organiser un référendum sur le maintien de la Grande-Bretagne dans
sans
le
doute
Royaume
sa meilleure idée de l'année hein
dans le Royaume-Uni. Et donc comme globalement les Britanniques sont favorables à ce maintien, puisqu'à l'époque je crois qu'il y avait 60% de Britanniques qui étaient favorables au maintien, donc tout ça va très bien se passer et comme
oui,
j'aurais
pas de soucis.
Et en fait ce référendum me servira un petit peu de plébiscite
oui.
Et donc
ça,
tout
ça
le
sera
monde
reparti pour un
tout
tour
le monde
après.
Dira que je suis un gars formidable voilà. Et ce sera reparti pour un tour
sauf que
c'est pas le problème c'est que les opposants de ce jeune homme monsieur Cameron c'est ça hein, c'est
oui,
son nom se sont très bien organisés, ont fait une campagne, n'hésitant pas d'ailleurs à utiliser en abondance des chiffres faux, enfin des contre-vérités, etc.
Oui, enfin, de la politique
mais,
d'aujourd'hui.
Là, voilà. Mais ils ont fait une campagne, il faut bien le dire, assez brillante. Et donc, du coup, le Brexit l'a remporté. Et alors là, Monsieur Cameron, qui n'avait
patatra.
Absolument rien prévu, s'est retrouvé, voilà, un peu bête. Et donc, comme il n'était pas du tout, il voulait pas du tout être le premier ministre qui implémenterait le Brexit. Il a dit, ah bah, au fait, je démissionne, vous vous débrouillez sans moi. Donc, du coup, voilà ce qui se passe en Angleterre. C'est le chef du parti qui a le plus de députés qui est au pouvoir et qui donc, c'est le chef de ce parti qui se retrouve premier ministre. Donc, la question qui s'est posée au parti conservateur, celui de David Cameron, c'est celui d'élire un nouveau chef qui, logiquement, devient premier ministre. Ce chef n'est pas un chef au sens masculin du terme, puisque c'est une chef. Ça va être la deuxième femme premier ministre britannique, et elle s'appelle Theresa May. Alors évidemment, à l'époque où Madame Thatcher était premier ministre, les premiers ministres avaient peu d'empreintes numériques, parce qu'en gros, le numérique n'existait pas. Aujourd'hui, c'est différent. Et donc, je me suis attaché à essayer de regarder quelle était l'empreinte numérique de cette dame, donc Theresa May, qui est le thème aujourd'hui de mon crash test. Alors, d'abord, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est de regarder ce qu'a dit l'heureux élu, ou ce qu'est l'heureuse élue, hein, tout ça est au féminin, bien entendu, lorsque elle a su qu'elle allait être premier ministre. Et là, c'est assez intéressant parce que elle a fait des tweets, on voit bien tout de suite, elle a fait des tweets d'un carré, d'un red et d'un franc, enfin, d'un euro, qu'on verrait difficilement chez les politiciens français.
Ah oui.
Je vous donne ces premiers tweets.
Allez-y. Hein.
Donc, je traduis approximativement avec mon
Oui, avec votre talent, mais votre gouaille surtout.
Ouais. Donc, le pays a voté pour quitter l'Europe.
Voilà, l'Europe.
Et donc, en tant que Premier ministre, je vais m'assurer que nous quittons l'Europe. Voilà. Donc déjà,
moi, c'est du factuel.
C'est du factuel. Alors qu'elle-même, d'ailleurs, avait plus, qui est connue comme eurosceptique, avait quand même plutôt fait campagne, mais assez mollement, pour le maintien. Mais enfin, bon, elle dit, voilà, très bien. Donc, toutes les spéculations sur est-ce qu'ils sont en train de nous embrouiller, est-ce qu'ils vont partir, etc. Non, elle dit, non, écoutez, non. Bon,
bah, vous l'avez voulu, vous allez la voir.
Deuxièmement,
deuxième tweet.
Si nous voulons améliorer notre prospérité globale, nous devons améliorer la productivité de notre économie. Un tweet, on attend encore, ça fait 20 ans qu'on attend qu'un ministre français nous explique les choses comme ça. Mais non, là, c'est carré. Si nous voulons augmenter la prospérité générale, donc celle de tout le monde, des riches, des pauvres, des machins, nous devons améliorer la productivité de notre économie. Troisième tweet, très intéressant aussi. Je rappelle qu'elle est conservatrice, cette ministre, donc plutôt libérale au sens français du terme, etc. Mais elle dit, peu importe que vous soyez Amazon, Google ou Starbucks, vous avez la responsabilité de payer vos impôts.
Ah,
voilà.
Petit signal envers
donc,
les
non mais
gros de,
voilà non mais donc voilà la loi c'est simple, il y a une loi voilà bon c'est moi j'aime bien les gens carrés.
C'est
donc,
ça.
Cette dame, elle est carrée. Et puis après un truc assez intéressant, elle dit c'est un conservatisme, elle est conservatrice, donc forcément les conservateurs se vantent d'avoir du conservatisme. Elle dit c'est une différente sorte de conservatisme, mais cohérente avec nos principes. Nous ne croyons pas seulement dans les marchés, mais aussi dans les communautés. Alors les communautés en Angleterre, ça ne veut pas dire dans ce sens-là le communautarisme, mais ça veut dire le niveau local. Hein. La community, c'est en quelque sorte la solidarité qui existe au niveau local, dans un village, dans un quartier, etc. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a un premier ministre qui donc en quelques tweets assez carrés dessine une politique qui est effectivement fidèle à ses convictions, plutôt conservatrice, mais qui en même temps dit des choses et borne de manière assez précise en quelque sorte le précaré dans lequel va se promener sa politique. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de regarder son site, parce qu'évidemment, elle avait un site, hein, elle est élue de la ville de Maidenhead depuis 1997, et donc elle a bien entendu un site internet dans lequel elle explique sa politique. Et alors, c'est tout à fait intéressant, parce que là aussi, c'est à comparer aux politiciens français, son site se compose d'informations extrêmement précises et extrêmement détaillées sur les mesures qu'elle prend au niveau local. Donc, par exemple, ça commence par « Nous avons reçu les plans de l'expansion de la Lowbrook Academy qui va permettre de prendre plus d'enfants à l'école ce mois de septembre et ainsi agrandir l'offre scolaire dans notre ville. » Mais on voit bien, c'est très concret, l'information qui est en dessous, c'est précis, c'est en poste de travail, c'est direct et précis. Elle dit aussi qu'elle a exprimé son inquiétude sur le projet de couper le service de train depuis la gare de Wargrave. Elle a dit que par ailleurs, elle voulait aussi s'occuper d'un parking qui est aux abords de la gare. Enfin bon, on voit bien qu'il n'y a pas l'idée qu'il y a des petits sujets pour un politicien. Elle prend des engagements.
Oui, en plus, ça c'est au niveau local.
Voilà, elle prend des engagements précis sur son site internet sur des sujets locaux et explique bien. Elle dit voilà, là sur le parking, le manque de capacité du parking cause des problèmes dans la zone locale. Ça a des conséquences pour les résidents et donc j'ai décidé de m'en occuper. Alors bon, après. C'est peut-être du yaka faucon, mais c'est quand même assez intéressant cette façon très directe de faire de la politique.
Voilà, Theresa May, donc.
Theresa May.
Voilà. Et peut-être que ce crash-test vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur cette personnalité qui monte en Angleterre. Ce crash-test est terminé, cet atelier aussi. Merci de nous avoir suivis. Alors, durant toute cette saison, on vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien. On va être là durant tout l'été avec une série de best-of de l'atelier. Et on se retrouvera bien sûr très vite. Portez-vous bien. Bon week-end et bonnes vacances à vous tous.